Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varel, est avec nous en studio. C'est aussi notre ami collègue, oui, dans Rage Against le matin, parce que régulièrement est avec nous pour jaser politique, mais encore plus cette semaine parce qu'elle co-anime le midi avec Pascal CV, Marceau qui est en vacances cette semaine. Dernier show à midi,
oui.
D'ailleurs, pour le duo de Girls, Pascal et Jacinthe Ève. De un, bon matin. De deux, bravo pour la co-animation cette semaine. C'est le fun de t'entendre le midi. Comment tu trouves ça?
J'adore ça. Je suis très, très choyée, très contente. Ça m'a permis de réaliser qu'à Boulevard, on n'a que des animateurs de grande qualité, du personnel de grande qualité. C'est une superbe équipe, une très belle famille.
Puis j'ai des fleurs à lancer, je l'ai faite à plusieurs collègues, là, mais très solide, Jacinthe Varel.
Ah,
ouais, j'ai écouté pas mal toute la semaine, puis très beau travail.
Ben, merci beaucoup, Maxime.
Nous, on le savait!
Ben, c'est sûr!
Je veux pas me péter les bretelles, mais nous, le trio de Rage Against le matin, on sait que c'est une animatrice hors pair de qualité. Là, maintenant, le reste du monde entier le sait. Non, mais tu sais, nous autres, on le savait, on a un parti pris. Là, on travaille ensemble depuis quoi? Un an et demi,
oui,
là,
ben
maintenant?
Oui.
Là?
Ben, c'est parce que les gens aussi me connaissaient comme chroniqueuse, mais tout le monde ne s'informe pas nécessairement sur le bagage qu'on a avant ça. Mais oui, maintenant, je suis connue comme chroniqueuse, mais j'étais animatrice télé pendant 3 ans. J'étais chef d'antenne d'un bulletin de nouvelles. Alors, c'est de la télé, c'est pas de la radio. Mais je suis aussi allée à l'école pour faire de la télé et de la radio. J'ai fait l'école Promédia à Montréal, donc c'est pas mes premières armes non plus à la radio. Et je m'étais spécialisée en radio parce que c'est mon médium préféré, j'adore ça. Donc c'est sûr que les vieux réflexes de l'école sont ressortis. Et puis j'avais aussi fait quand même un peu de radio là, pour faire des bulletins de circulation, puis des publicités, des voix publicitaires. Donc quand même, ça fait appel à des vieux apprentissages que j'ai fait dans le passé.
Moi, j'aurais aimé ça faire de la télé, mais on me dit souvent que j'ai une face de radio.
En tout cas, ça paraît, puis pas à peu près, puis j'ai bien hâte de vous entendre, de vous écouter là, à midi pour une dernière fois ensemble,
oui,
en ce moment, parce que Marceau sera de retour lundi.
Ouais.
Ça a bougé et ça a brassé au niveau, dans le monde politique, autant municipal, provincial, fédéral, international. Je pense que j'aimerais qu'on commence la discussion en parlant du tramway et du financement pour le fameux projet de tramway à Québec, parce qu'on en a jasé avec bien du monde à Rage Against le matin,
ouais,
autant au municipal, provincial que fédéral. Et souvent, lorsqu'on pose la question à savoir, entre autres, t'sais, le financement, on peut-tu réouvrir le dossier, on peut-tu changer des choses? Et aussi la fameuse question, est-ce qu'on peut transférer le montant, le 1,44 milliard du tramway au troisième lien? Les gens vont partir avec une réponse bien confiante.
Oui.
Assez clair.
Ouais.
Et plus ça avance, plus c'est flou et nébuleux.
Ouais.
Qu'est-ce que tu retiens, toi, cette semaine, de autant les réactions du municipal, provincial et fédéral?
Je retiens qu'on parle beaucoup, justement, avec beaucoup trop de confiance, parce que tous ces montants-là, j'ai entendu même des gens dire que c'est des programmes normés, on ne peut pas transférer ça d'un projet de tramway vers un projet de pont. Ça reste des décisions extrêmement politiques, et quand on prend des décisions de cette ampleur-là, de niveau politique, on organise les enveloppes comme on le souhaite. Les mécanismes législatifs existent pour permettre justement de, par exemple, si un gouvernement fédéral souhaitait attribuer cette enveloppe-là à d'autres projets, ça ne sera pas cette enveloppe-là, mais ça se fait de dire finalement, on laisse faire le 1,4 milliard de dollars dans le projet du tramway et on va attribuer la même somme ou le double ou le triple sur un projet de pont. Ça ne sera peut-être pas la même enveloppe, mais le fédéral peut se commettre et dire finalement, on va mettre trois fois le même montant, mais sur un pont, sur un nouveau lien. Là, est-ce que ça vient de la même enveloppe? Au bout du compte, ça vient tout de nos poches,
ouais,
là, je vous rappelle.
Ouais. C'est-tu la même enveloppe? Je ne sais pas, mais c'est la même poche.
C'est ça.
Est-ce que tu es d'accord avec la sortie de Geneviève Guilbeault qui répond à M. Duclos? Ben d'abord, assurez-vous que votre gouvernement respecte son engagement de payer 40%, puis que si vous ne voulez pas rouvrir l'entente, ben à ce moment-là, proposez des solutions pour sécuriser ces sommes-là.
Ouais, ben Jean-Yves Duclos fait bien de dire qu'on peut pas rouvrir l'entente, parce que s'il commence ça, il va falloir qu'il le fasse avec tout le monde qui va demander de rouvrir les ententes. Et on sait que souvent, ces projets-là, ils s'étirent sur tellement d'années que les facteurs changent, les prix changent, les modalités changent. Mais de toute façon, ce qu'il y a de particulier dans ce dossier-là, c'est que les coûts, et Geneviève Guilbeault a été la première à le dire, sont extrêmement, c'est pas le mot extrêmement qu'elle avait utilisé, là, mais c'est très approximatif. Je me souviens pas du qualificatif qu'elle avait utilisé, mais c'est très approximatif. On estime les coûts de construction du tramway à 7 point quelques milliards de dollars, mais on n'a pas encore effectué tous les tests de sol. On sait qu'à un moment donné, il y a des pentes à traverser ce tramway-là. Il va falloir creuser des tunnels. Donc, on peut avoir des belles surprises en cours de route. Alors, j'ai l'impression qu'on parle énormément de chiffres, énormément de pourcentages, mais à la base, si je vais dans une institution financière et je dis, hey, moi, je veux construire une tour à condo là, de 50 étages, mais mes tests de sol ne sont pas effectués, alors je ne sais pas à quel point il va falloir que je pieute mon édifice ou que je creuse profondément dans le sol pour venir l'ancrer correctement ou si finalement je suis sur du roc et que finalement, ben, je ne sais pas trop la finition qu'il va y avoir dans mon condo.
Je ne sais pas combien ça va me coûter en gros.
Je ne sais pas combien d'unités. Exactement. Je ne connais pas mes coûts de construction, mais j'ai une mise de fonds de 100 000 ici. Puis moi, je veux faire une tour de 50 étages. Mais je sais pas trop combien ça va coûter au bout du compte. Il y a des gens qui vont m'aider, mais je sais pas trop à quelle hauteur qu'ils vont m'aider. Tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Oui. Puis personne, je trouve, en tout cas peu de monde, se commet à dire, à mettre la lumière là-dessus sur le ridicule de la situation. On est beaucoup trop dans des facteurs inconnus pour spéculer sur les chiffres, les taux de participation des différents paliers de gouvernement. Alors, on est vraiment dans l'image puis la politique. Là. Quand le gouvernement fédéral dit on s'engage à 40 %, on va mettre 1,4 milliard, ça va coûter à peu près 7 milliards. Tout le monde dit « Ah, ben, de toute façon, on sait que ça déborde toujours les coûts. Mm-hmm. On sait que souvent, on déborde de 30-40 % les coûts. » Puis ça, c'est en temps réel. Mais si finalement, le tramway, on l'a en 2030 ou 2035, ça va peut-être coûter 3 fois le prix qu'on estime actuellement, 4 fois le prix. Il y a l'inflation, il y a le coût de construction qui augmente toujours. Alors, finalement, moi, j'aimerais qu'on s'attarde davantage à construire un projet solide avec des chiffres solides comme n'importe quel projet comme individu qu'on a quand on veut avoir du financement. On va dans une institution financière, on doit présenter un projet beaucoup plus sérieux, beaucoup plus crédible, plus étudié que ça.
Jacinthe-Ève, est-ce qu'une rencontre entre Duclos, Guilbeault et Marchand, ça peut servir à quelque chose ou ça sert presque à rien parce qu'on le sait qu'éventuellement les conservateurs vont être au pouvoir au Canada?
Bien, c'est sûr qu'ils pourraient s'asseoir puis refaire une entente ou statuer sur certains éléments qui vont lier les mains du prochain gouvernement fédéral. Ça se fait.
Il pourrait avoir du concret? Oui, de cette rencontre-là?
Oui, absolument. Okay. Mais comme je dis, il reste que le projet est tellement sommaire. On a tellement révisé. Là, on sait même que le matériel roulant qui avait été évalué au départ, ça serait peut-être même plus le même matériel roulant, étant donné qu'on va changer... La minute qu'on change le type de rail ou les infrastructures qu'on veut mettre en place, ça change les coûts, ça change qui seront nos soumissionnaires. Alors, en même
temps... Ça prend un autre appel d'offres à base aussi, là.
Exactement, exactement. Donc, oui, ils peuvent s'asseoir puis essayer de couler des choses dans le béton pour lier un peu les mains du gouvernement fédéral, mais il reste que c'est pas rendre service à la population. Au bout du compte, là, qu'on essaie de sécuriser quoi que ce soit, c'est pas rendre service à la population si on essaie de lier les mains du prochain gouvernement parce que il reste qu'en ce moment, la situation est que le gouvernement fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau n'a plus tant que ça la légitimité. Hein? À un point tel où le premier ministre s'est lancé dans les grandes démarches qu'il a lancées. Donc, ce serait quand même vraiment jouer... comment je pourrais dire? Jouer de manière non respectueuse des contribuables. Moi, je dirais ça comme ça. Non respectueuse des contribuables. Ouais.
Dans un autre dossier qui implique provincial et fédéral, hier, on a appris que la Cour suprême du Canada allait entendre la contestation de la loi 21 sur la laïcité de l'État.
Là, on a besoin de toi. Moi, je pense que je ne suis pas le seul qui est tout mêlé dans cette situation-là.
C'est une loi du gouvernement québécois. Sauf que là, il y a certains groupes du côté de Montréal, entre autres une commission scolaire, qui dit non, ça, cette loi-là devrait pas passer, qui amène ça devant la Cour suprême du Canada. Ça, c'est une chose. Mais là, en plus de ça, t'as le gouvernement fédéral qui dit nous autres, on est pour cette contestation-là, fait qui s'implique dans un dossier où, pour moi, on a zéro implication à voir. C'est une loi provinciale. Est-ce que le fédéral a raison de s'ingérer?
Puis là, on s'obstine sur ce qu'on appelle la clause dérogatoire.
Oui. OK. Oui. Bien, la clause dérogatoire, c'est une disposition qui permet à toutes les provinces du Canada de faire passer une loi qui, finalement, contourne la Charte des droits et libertés canadienne, donc qui donne préséance à la province en matière de cette loi-là qu'elle soumet à la clause dérogatoire pour dire oui, on sait qu'on a une charte canadienne des droits et libertés, mais dans le cadre de cette loi-là, elle a préséance, donc elle contourne les dispositions de la charte.
Pour balancer les pouvoirs au Canada, c'est un petit peu ça, province fédérale aussi, pour que oui. les provinces aient à quelque part un certain pouvoir de prendre des décisions?
Exactement, okay. Oui, pour leur donner plus un certain pouvoir. Par exemple, on a vu que la Saskatchewan a utilisé la clause dérogatoire pour faire en sorte que les enfants de moins de 16 ans, lorsqu'ils manifestent un désir de changer de genre, oui. Les parents, les écoles soient obligées d'informer les parents lorsque les enfants qui sont concernés par cette idéologie de changement de genre, donc les écoles soient obligées là, d'informer les parents de ça. Donc la Saskatchewan a dit, nous, on veut s'assurer là, que les enfants de moins de 16 ans impliquent leurs parents dans ces processus-là. On veut que les établissements scolaires, par exemple, qui en sont conscients, soient obligés de divulguer aux parents la situation. Donc, on veut une transparence et on sait que la Charte canadienne des droits et libertés pourrait entraver notre désir là, de protéger les enfants de moins de 16 ans. Donc, on utilise la clause dérogatoire. Nous, on l'a utilisée pour faire passer la loi 21. C'est la fameuse loi sur le port des signes religieux qui, finalement, a été contestée par la Commission scolaire de Montréal, entre autres, parce qu'il y a trois organismes là, qui ont contesté cette loi-là. Puis on est rendu finalement devant la Cour suprême. On ne sait pas encore si la Cour suprême va se positionner sur la loi 21 comme telle ou sur l'utilisation de la clause dérogatoire dans le cadre de ce... parce que la Cour suprême n'est pas obligée de dire sur quoi elle veut statuer ouais. exactement, mais elle va ouvrir ce débat-là. Est-ce que c'est vraiment sur le fond de la loi 21 ou c'est sur l'utilisation de la clause dérogatoire? On ne le sait pas encore, mais c'est sûr qu'on voit ça du point de vue du Québec comme une ingérence dans le droit de la province d'utiliser cette clause dérogatoire qui existe exactement pour ces raisons-là, pour éviter ça. Alors, les tribunaux, la Cour suprême du Canada va trancher ou va ouvrir ce débat-là. Et effectivement, tu as raison, Max, de le dire, c'est une histoire juridique et c'est quand même, ça laisse perplexe de voir que le politique s'en mêle, alors qu'un parti politique, donc en l'occurrence le parti de Justin Trudeau, Parti libéral du Canada, ne se positionne pas contre ou soutienne les démarches de la Cour suprême, ils sont pas obligés de se positionner. Ils pourraient dire on laisse la Cour suprême du Canada décider. Nous, on n'a pas d'opinion là-dessus, mais ils en ont une opinion et ils soutiennent la démarche de la Cour suprême, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas du bon œil, finalement, l'utilisation de la clause dérogatoire. C'est sûr, c'est une lutte de pouvoir entre le fédéral et les provinces aussi.
Bon, merci, ça me démêle un peu. Là, je trouvais ça pas mal complexe, tout ça. À un moment donné, je pensais que c'était réglé. Là, après ça, on me ramène ça.
Oui.
Là, je comprends. OK. Merci, Jacinthe. Je vois que le temps a fait. Hey, on s'était pas parlé depuis un bout. J'avais tellement une longue liste d'épiceries. OK, municipal. Claude Villeneuve était avec nous en studio hier matin. Finalement, on le talonnait depuis un bout à lui demander est-ce que vous allez vous présenter là, comme candidat à la mairie de Québec. Ça a été annoncé officiellement cette semaine. Il était avec nous hier. Dans la discussion qu'on a eue, beaucoup de réactions positives par texto, nos auditeurs, 88-971-1021. Tu penses quoi qu'officiellement, maintenant, on annonce que Claude Villeneuve se lance dans la course?
Enfin, il n'y a plus de flou autour de sa candidature. Hein. On ne savait pas encore s'il allait céder sa place ou prendre la place de chef pour être aspirant maire de Québec. Alors là, c'est intéressant. On le sait, il est lancé dans la course. Je l'invite, je suis contente de voir qu'il y a des réactions positives, mais je l'invite, on entendait hier un discours très, très axé sur les besoins du citoyen, très axé sur les préoccupations quotidiennes d'un père de famille qui habite dans la ville de Québec puis qui fait face à l'administration municipale dans son quotidien. Il a parlé notamment des cours de piscine. Je l'invite, il parle d'économie, mais je l'invite à renforcer son discours économique. Parce que quand on parle d'économie...
Plus solide à ce niveau-là.
Oui, quand on parle d'économie de Québec, on parle pas juste de rendre Québec plus festif puis le quartier Saint-Roch plus festif, les cours de piscine. Alors, ça va être intéressant de voir comment il va évoluer là-dedans puis de prendre un discours avec une expérience de conseiller municipal et de l'apporter à un niveau de maire. Et là, il y a une marche entre être conseiller municipal où on s'intéresse justement aux cours de piscine et avoir un centre-ville du quartier Saint-Roch plus revitalisé puis encore plus rayonnant. Mais amener le niveau économique, ça implique réellement d'avoir une vision. Et ça, bien, j'ai senti hier là, que ça manquait encore.
Petite dernière. Je vois que ça passe vite. Motadine d'alarme à feu qui a chamboulé notre heure. Là. Petite dernière, puis ensuite, on t'écoute avec Pascal CV à midi. Je vais y aller au fédéral. Course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Beaucoup d'appui pour Mark Carney. Est-ce que c'est lui qui... Je vais le dire entre guillemets, mène la course en ce moment?
C'est le favori des médias, ça c'est clair. C'est aussi le favori en termes de nombre d'appuis des ministres du gouvernement du Parti libéral du Canada. C'est lui qui a le plus d'appui. Chrystia Freeland a déjà 4 ministres qui la supportent. Mark Carney est déjà rendu à 7 ministres. Alors, c'est le favori dans la course. C'est le chouchou des médias, alors il est pas malmené, mais je vous rappelle toujours que Mark Carney, s'il remporte cette course à la chefferie, on aura un premier ministre du Canada non élu. Je vous rappelle que Mark Carney n'est pas un élu et il est derrière les politiques de Justin Trudeau depuis longtemps. On n'en parle pas assez. Je trouve qu'il l'a très facile. Il y a un beau tapis rouge devant lui. Il est tellement impliqué dans les politiques environnementales aussi depuis longtemps. Pas mal dans l'idéologie de Jack Metzing au parti du Nouveau Parti démocratique, au NPD. Alors, se pourrait-il que si Mark Carney emporte la course et qu'il devienne notre premier ministre du Canada non élu, je vous rappelle, se pourrait-il qu'il y ait une belle entente avec le NPD et qu'on repousse les élections jusqu'à l'automne prochain?
Bon, une autre qui pense ça. Jeff Fortin a lancé ça cette semaine.
C'était la prédiction à Jeff aussi.
Ils sont dans la même idéologie en matière, en matière d'environnement.
Jacques Metzing martèle tellement qu'il va déclencher des élections. Je peux pas croire qu'il se ridiculiserait au point de faire ça.
Ben moi, je vous sors tout de suite la carte qui va sortir.
Let's go.
J'aime pas ça faire la prédiction de la prédiction, mais il reste que on dirait que c'est trop évident, c'est grossier quand on lit beaucoup d'informations là, c'est grossier.
C'est trop évident, Max.
Mais ça serait tellement ridicule aussi.
Joue ta carte. La carte Trump. Là, en contexte d'élection d'administration Trump, les tarifs, tout ça, c'est pas le temps de se lancer en campagne.
Stabilité.
En campagne électorale, la stabilité. Donc, Mark Carney va tout de suite prendre les choses en main. On peut pas se lancer dans une campagne électorale. Ça va nous déstabiliser face à l'administration Trump, les tarifs, tout ça. Alors, j'ai l'impression qu'on a tout ce qu'il faut dans le jeu de cartes pour justifier qu'on s'en aille en élection seulement à l'automne. Ça serait vraiment irrespectueux des contribuables, vraiment irrespectueux des électeurs. Mais ça sent
ce serait clownesque de la part de Jacques Metzing. Mais je peux pas croire. Il perdrait toute crédibilité à mes yeux.
C'est une bonne carte, par contre. Une bonne carte.
Mais en même temps, il sait que de toute façon, il y a des élections demain matin, puis il va perdre.
Ouais.
Il va perdre des sièges.
Pourquoi pas avoir un petit peu plus de temps?
Ouais,
hein?
C'est ça.
Ah, c'est une bonne carte. C'est intéressant, c'est intéressant. Hey, Jeff, ça, c'est de la musique aux oreilles de Jeff Fortin qui nous écoute peut-être en se préparant pour un premier match dans son tournoi de hockey. Bref, Jacinthe Varel, notre chroniqueuse politique ici à Rage Against le matin. Toujours un plaisir. Tu sais, cher ami, toujours un plaisir.
J'adore venir vous voir.
Et toujours un plaisir aussi de t'écouter avec Pascal le midi. On t'écoute. D'ailleurs, Marceau, il revient lundi. Fait qu'à midi, Pascal et
dernière
toi.
Dernière chance,
c'est à midi. On t'écoute. Et on se reparle la semaine prochaine
oui,
à Rage Against le matin.
Ouais.
Courte pause. Ensuite, Sol Zanetti, député de Jean Lesage pour Québec solidaire. Et nouveau chapeau pour Sol Zanetti, critique pour Québec solidaire en matière d'éducation. Ça s'en vient dans la prochaine heure. Restez là.
On s'arrête.